Bien, bonsoir. Le quart d'heure dit Lyonnais étant passé, nous pouvons commencer. Donc, je suis François Dupuy-Grenet, je dirige l'ENSIB et je suis très heureux de vous accueillir ici et d'accueillir Jack Goody, qui vient pour la première fois à Lyon, me disait-il, et qui a eu une journée lyonnaise déjà bien employée et qui trouve ici, en quelque sorte, son couronnement. Je voudrais remercier d'abord les initiateurs, en fait, de cette journée. Claude Giraud, le directeur du Glisi Safa, et Madame Odile Journet, professeure d'anthropologie à Lyon 2, qui ont été les artisans de la journée d'aujourd'hui, ainsi que, ici à l'ENSIB, Marie-France Perlon. Nous avons souhaité participer à cette journée autour de Jack Goody parce que nous sommes ici dans une école dont le propos intellectuel croise à de nombreuses reprises et sur différents terrains les travaux de Jack Goody. Si Régis Debray, qui préside notre conseil scientifique, avait pu être là, il vous aurait dit, monsieur, tout ce que la science nouvelle, selon lui, qu'il a initié, la médiologie, doit en particulier à ce qui est devenu un livre culte, mais qui n'est qu'un de vos livres, la raison graphique. Nous sommes dans une école des sciences de l'information et des bibliothèques, c'est dire que nous nous intéressons à tout ce qui touche aux phénomènes de communication et d'information, à la fois dans le monde contemporain, dans sa diversité, et dans l'histoire, et que l'histoire du livre à la française, ou l'histoire et l'histoire des mentalités, a également croisé souvent votre chemin. Vous avez été très lu par les historiens. Donc nous avions une grande curiosité à vous rencontrer, à l'occasion notamment de la publication en français de votre dernier livre, L'Orient en Occident, et pour évoquer à la fois votre œuvre sous un titre bien générique, de la raison graphique à l'Orient en Occident. Donc nous sommes finalement deux à vous entourer dans ce trio de ce soir. Nous devions être trois, mais je crois que M. Gann, le directeur adjoint du Glisi Safa, a été empêché. Donc M. Christian Henriot, le directeur de l'Institut de l'Asie orientale, historien de la Chine en particulier, et donc moi qui ai été dans une vie antérieure un historien du livre et qui essaie de m'en souvenir, même quand je m'occupe surtout ici d'administration. Donc, pour commencer dans cet entretien, ce trilogue en quelque sorte, puisque nous sommes trois, je pense qu'il serait peut-être intéressant de commencer, même si ce n'est pas un point de départ absolu, mais enfin, c'est souvent celui par lequel vos lecteurs commencent, peut-être par la raison graphique, précisément, parce que c'est un livre dont je mentionnais qu'il est devenu un livre culte, et c'est un livre qui se recharge de lectures successives depuis sa première publication, lectures successives souvent réductrices, et dans votre livre récent, qui a bien d'autres aspects, mais enfin, vous revenez sur certains aspects de la façon, en tout cas, dont a été lu et dont en partie a été conçue la raison graphique, et en particulier sur ce qui est devenu sa thèse la plus banalisée, qui est en somme que l'écriture, le processus même de l'écriture, aurait joué un rôle fondamental dans l'équipement intellectuel de l'Occident, et aurait servi de facteur de différenciation fondamental dans le développement à long terme, si on situe cela dans une perspective d'histoire comparée, voire d'histoire universelle, de nos sociétés occidentales depuis ce qu'on appelait autrefois le miracle grec. Donc ce lien entre la démocratie athénienne, la démocratie grecque en général, l'écriture, le développement de la géométrie, la philosophie. Donc c'est ce nœud particulier dans l'équipement intellectuel de l'Occident, avec toutes les conséquences qui en ont été, enfin qu'on en a décrites, en tout cas dans l'histoire longue de l'Occident, songeant aux différentes renaissances dans lesquelles cet héritage est décrit comme étant repris, songeons à la phrase de Bacon sur les différentes inventions qui caractériseraient précisément la Renaissance, et parmi celles-ci, l'imprimerie, qui rechargerait en quelque sorte la question de l'invention de l'écriture. Donc sur tout cela, vous portez un regard nouveau, comparatiste, qui situe de façon beaucoup plus nuancée ce miracle, ou en tout cas cette invention de l'écriture parmi les équipements techniques de l'humanité, et cela dans un parallélisme porté, qui soutient tout le livre, entre, sur la longue durée, entre sociétés occidentales et orientales. Alors peut-être pourrait-on commencer par cela, effectivement. Pourriez-vous rappeler ce qu'a été la raison graphique et comment vous la considérez aujourd'hui ?
Je suis en train de penser parce que j'avais pensé qu'on va parler de l'autre livre.
Ça va venir.
Et j'avais pas. Quand j'avais écrit la raison graphique, j'avais déjà modifié la première notion que j'avais eue sur l'écriture, parce que j'avais écrit avec un ami Ian Watt, qui travaille sur le roman. J'avais écrit un article sur ce que nous appelons les consequences of literacy, les conséquences de l'écriture. Mais nous avons pris à ce moment-là nous avons jeté un regard assez traditionnel sur l'histoire de l'écriture grecque, l'écriture alphabétique. Nous avons suivi beaucoup de historiens de l'écriture comme Derrida. En regardant l'alphabet grec, c'était pas vraiment un alphabet grec, un alphabet phénicien, comme le grand saut qualitatif, le quantum jump entre l'oralité, les cultures orales et les cultures écrites. À cause de la facilité d'apprendre l'alphabet. Et nous avons cru que beaucoup des de la réussite de la culture grecque appartient plutôt qu'à l'invention de l'alphabet. Mais quand j'ai écrit la raison graphique, j'avais modifié très fortement cette hypothèse, parce que je vois que ce n'était pas seulement les écritures alphabétiques qui poussent l'esprit intellectuel, c'était aussi les gens de l'agriculture en Chine, au Japon aussi, qui font à peu près la même chose. Pas tout à fait pareil, parce que comme j'avais dit ce matin, les formes de l'agriculture en Chine rendent possible la communication écrite dans un grand, un continent, la moitié d'un continent, avec un cinquième de la population du monde. Et ça donne un moyen de communiquer avec le système d'écriture chinois, qui n'était pas du tout un système alphabétique comme celle de la grecque et le phénicien. Et alors, en effet, j'avais déjà modifié l'argument que j'avais posé en premier lieu pour rapprocher un peu d'Orient et l'Occident. Et ça, je ne regrette pas. Je crois que je suis... je crois que maintenant, il y a des... il y a deux tendances... deux tendances bien marquées même chez les historiens en Europe. Il y a ceux comme David Landes qui a écrit ce livre sur le wealth et la poverty des nations, mais qui est tout à fait orienté vers l'Europe et ce que l'Europe a fait. Et les réussites de l'Europe, et il regarde pas du tout ce qui se passe en Chine ou au Japon, comme peut-être au Japon maintenant, parce qu'ils suivent les Américains, les Britanniques, le Japon. Mais ils pensent que ce que les Chinois ont accompli, c'était pas du tout dans la voie de la modernisation. Et moi, je suis pas du tout d'accord. Je crois que la modernisation commence avec l'invention de l'écriture à l'âge de bronze. Et après ça, il y a sans doute des autres changements dans le mode de communication. Mais quoi que ça passe en Europe, en Mésopotamie ou en Chine, ça a été un grand changement pour notre histoire, pour l'histoire culturelle de l'humanité. Alors, c'est un thème que j'avais suivi un peu depuis ça, dans ce livre dont vous avez parlé. Où j'avais essayé de montrer que, par exemple, les formes de la comptabilité que Max Weber et Zombart ont pensé que c'était le début, c'est une forme de comptabilité qu'est-ce qu'on dit,
En partie double,
oui. La comptabilité en partie double, C'était le début de modernisation en Europe. C'était une espèce de comptabilité scientifique, comme il a décrit, et que les autres formes de la comptabilité n'étaient pas du tout du même genre. Et moi, je suis... Je suis un peu... Je me méfie de ce genre d'argument parce qu'on voit maintenant qu'il y avait eu, même en Chine, il y avait eu des développements dans la comptabilité à partie double au sud de la Chine. Et c'était un développement technique, n'est-ce pas? Un développement basé sur la comptabilité simple. Mais avec la comptabilité simple, on a pu faire beaucoup de choses. J'avais travaillé un peu dans un bureau en Inde où on a utilisé la comptabilité simple. C'était une grande entreprise des marchands de cotes du coton, mm-hmm. aussi grand que les entreprises à Lyon ou à Manchester. Et on avait réussi avec une espèce de comptabilité simple. Il y a des avantages avec la comptabilité en partie double, mais il y a des avantages, mais ils font pas la différence entre quelque chose de scientifique et quelque chose qui est tout à fait primitif, n'est-ce pas? Et c'est ce que, à mon avis, c'est ce que Weber et Sambat a pensé.
Donc vous remettez en cause les liens entre, enfin, qu'on définit souvent comme modernité, rationalité, voire accumulation primitive, comme étant des caractéristiques propres, spécifiques aux sociétés occidentales.
Oui, toujours je voudrais mettre en cause la parce que pour nous les anthropologues, nous avons travaillé dans les autres sociétés en Afrique, où il y a eu une espèce de rationalité de l'utilisation de logique, n'est-ce pas, comme Evans Pritchard a montré dans ses travaux au Soudan. C'était une logique différente, mais c'est quand même une espèce de logique. C'est une logique différente, à mon avis, parce que la logique que nous utilisons en Europe, c'est surtout une logique de l'écriture, n'est-ce pas, inventée par Aristote et les autres. Et tout le système du syllogisme et tout ça, c'est une forme, à mon avis, c'est une forme écrite. Mais il y a une espèce de raisonnement en Afrique. Où les choses suivent, une chose suit une autre, n'est-ce pas? C'est une espèce de raisonnement. Qu'est-ce que je l'avais appelé? J'avais oublié maintenant ce que je l'avais appelé, mais c'est une espèce de raisonnement consécutif, n'est-ce pas? Comme la logique de l'Ouest. Mais les fonds du logique de l'Ouest, ça se trouve aussi aux Indes, ça se trouve aussi chez les bouddhistes au Japon, et ça se trouve aussi chez les Chinois et les autres. Il y a même des espèces de syllogismes pas tout à fait pareils que ceux d'Aristote, mais pas tout à fait différents non plus.
C'est vrai que c'est un type
et
de...
Je crois que ça c'est à cause des systèmes d'écriture qui posent des problèmes pour les gens. Les problèmes de la comptabilité, ça rend possible la comptabilité, ça rend possible la formalisation de l'argument, la formalisation de logique, avec la A et la B et tout ça, on appuie, on fait des sommaires utilisant l'alphabet. Et je crois que on est poussé par l'écriture et par le livre, si vous voulez, dans cette direction. Et en Orient et en Occident.
C'est un raisonnement qu'on comprend bien chez les anthropologues. C'est vrai qu'il est moins fréquent chez les historiens, tout simplement parce que la logique des phénomènes fait qu'on a très souvent tendance à les tirer dans une sorte de réduction au plus petit commun dénominateur et également dans une sorte de déterminisme technologique dont, par certains côtés, d'ailleurs, la médiologie n'est pas exempte. Cette fixation souvent un peu étonnante sur les processus matériels et notamment sur la question de l'imprimerie. D'ailleurs, c'est une question qui est fréquemment évoquée dans les parallèles Orient-Occident que cette question de l'imprimerie, puisque maintenant les historiens du livre se sont habitués à l'idée que, bien sûr, ce n'est pas Gutenberg qui a inventé les caractères mobiles. Alors, on le dit souvent, mais après, on l'oublie, parce que une fois qu'on a dit cela, on continue à faire de l'histoire du livre très occidentalo-centriste. Et rares sont ceux qui sont allés regarder, je veux dire, parmi les historiens du livre ou de la culture écrite ici, ce qu'ont été effectivement les usages de l'imprimerie, soit de la xylographie, la plus répandue, soit de l'imprimerie en caractère mobile, que ce soit en Chine ou en Corée, je veux dire, c'est son impact réel sur les sociétés. Et c'est vrai que parmi les idées reçues qui sont le plus fréquemment répandues à ce sujet, on dit volontiers, eh bien voilà, d'un côté, on a eu à peu près la même invention, d'un côté ça a pris en Occident parce que nous étions dans un système technique et dans un système de pensée qui permettait à ce multiplicateur de fonctionner, et puis on voit que dans ces sociétés orientales, de Chine en particulier, pour des raisons qui tiennent à la structure de ces sociétés, à un manque de passage à la modernité, cela n'a pas pris. Alors, c'est évidemment quelque chose de tout à fait réducteur, mais c'est un bon exemple, me semble-t-il, de ces objets concrets sur lesquels on peut s'appuyer afin de poursuivre ce trajet intellectuel portant de l'Orient en Occident. Et autour de cela, et plus généralement de ce thème, je souhaiterais à la fois vous interroger et interroger votre voisin.
Je vais en fait intervenir aussi, d'abord pour dire que je suis tout à fait, enfin, très heureux et honoré d'avoir la possibilité de rencontrer et de discuter avec Jack Goody pour plusieurs raisons. Une des raisons majeures, c'est bien sûr que j'ai lu ses ouvrages. L'autre raison, c'est que son ouvrage s'inscrit dans une veine, il s'en diffère de beaucoup de points de vue, j'y reviendrai, mais il s'inscrit dans toute une veine de production historiographique qui fait malheureusement entièrement défaut dans ce pays, de manière beaucoup plus large d'ailleurs en Europe. On la trouve davantage aux États-Unis. Et elle m'intéresse à double titre. Elle m'intéresse sur le fond, c'est-à-dire les connaissances, ce qu'on apporte comme connaissances sur cet Orient qui est effectivement excessivement mal connu. Et elle m'intéresse encore davantage, enfin cet ouvrage m'intéresse encore davantage, et il devrait intéresser un très large public de ce point de vue, par la réflexion sur les formes de discours qui se sont développées en Europe. Alors les formes de discours au sens large, c'est-à-dire production historiographique, qu'elles soient celles des historiens, des anthropologues, des sociologues et pratiquement de toutes les sciences sociales, qui très souvent font une impasse totale sur ce qui a pu se faire dans les 5000 dernières années dans une zone qui représente effectivement actuellement d'abord une grande part de l'humanité, mais qui surtout historiquement représente en gros 80% de l'humanité qui a vécu sur le globe. Donc c'est tout de même un problème de fond. Alors j'ai une question qui me vient immédiatement à l'esprit. Je disais à l'instant, ce livre s'inscrit dans une veine historiographique, c'est-à-dire qu'il y a à mon sens depuis une bonne dizaine d'années, sans doute un petit peu plus, mais une série d'ouvrages qui sont venus remettre en cause effectivement cette vision européocentrée, européocentrique, ethnocentrique de l'histoire de manière générale, en relation avec une réflexion sur l'histoire universelle, parfois pour affirmer une différence, je pense à toute une production sur l'histoire africaine. Ce qui me frappe, ce qui nous a frappé, un certain nombre d'entre nous qui avons lu ces ouvrages et qui sont très concernés parce que nous sommes aussi des historiens militants d'une certaine manière en travaillant sur l'Asie, c'est que beaucoup de ces ouvrages américains, je pense à Huxon, à Blout.
Qui
Blout.
Oui, Blout, oui, c'est bien. Blount est aussi maintenant à André Gondefrank.
Voilà, tout à fait.
Qui a tout à fait changé ses idées.
Voilà. Ce qui me frappe dans ces ouvrages, c'est à la fois pour l'aspect novateur, critique, mais aussi un aspect très souvent polémique. Il y a une dimension polémique, oui. Et une série d'arguments qui est avancée, qui n'est pas bon, qui déconstruit, mais qui construit relativement peu. J'ai eu le sentiment, en lisant votre livre, que d'abord vous procédiez de manière très très différente, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas nécessairement à déconstruire systématiquement ou à critiquer systématiquement ou au contraire, à construire des choses très théoriques, mais vous partez, enfin, les différents chapitres sont consacrés à des éléments bien précis. Vous avez parlé de la comptabilité, mais vous traitez aussi de la famille, vous traitez de l'organisation marchande, notamment en Inde, vous traitez de sujets bien, bien précis, vous les analysez, vous les montrez, et vous arrivez surtout à montrer que finalement, c'est pas très différent, en tout cas, de ce qui s'est passé en Occident, et que ça ne peut pas. On ne peut pas utiliser comme facteur explicatif le fait que, effectivement, il n'y avait pas en Inde tel ou tel système de comptabilité ou tel type d'organisation ou tel type. Bon, vous montrez par exemple l'importance de la famille dans les entreprises, aussi bien dans les pays asiatiques. Alors, ma première question, c'est comment vous situez-vous par rapport à cette historiographie anglo-saxonne qui, donc, combat cet ethnocentrisme, cet européocentrisme qui a marqué et qui marque toujours la production européenne, la production historiographique. Moi, je suis historien, c'est ce qui me concerne davantage, mais si l'on prenait les autres sciences sociales, je vois qu'on est encore plus en arrière par rapport à la fois à la connaissance qui est produite sur les sociétés asiatiques et surtout à leur prise en compte dans la réflexion sociologique ou anthropologique par rapport à nos propres sociétés. Donc j'aimerais avoir un petit peu votre positionnement par rapport à ces travaux et comment vous situez votre propre travail par rapport à cela.
Oui, c'est vrai qu'il y a un mouvement un peu polémique. C'est vrai, avec Blount et avec André Gondefrank qui a écrit un livre en anglais. Il faut que je... Dans le titre...
Reorient History.
Reorient, oui.
History.
Reorient History, oui, oui. Il faut changer la direction de l'histoire. Et il a des arguments qui sont tout à fait différents de les miens, mais j'avais fait un compte rendu dans le Times Higher Education Supplement. Mais c'est intéressant parce que lui a été il a été marxiste, il a suivi les pensées de Max Weber, et il était très très pro l'Europe et ce que l'Europe a réussi à inventer le capitalisme, la modernisation. Et il y a certainement un côté polémique, mais je crois que le meilleur travail s'était fait, par exemple, comme par les sinologues qui, comme Joseph Needham, dans ses sciences sur l'assertion de la Chine, qui a essayé, à mon avis, de montrer que même si la Chine n'a pas eu ce que nous appelons, nous, la révolution scientifique, ils ont fait beaucoup d'avance jusqu'à le 16e siècle. Et ils étaient même plus avancés que nous en Europe jusqu'à la fin du 16e siècle, dans quelques branches des sciences. Et l'imprimerie a beaucoup aidé ça, parce que on voit dans le Song, dans la dynastie Song, on voit les encyclopédies imprimées, je crois, qui paraît tous les dizaines d'années dans des différentes versions, qui corrige les notions qu'on a soumis dans des versions des autres versions. Et ils ont eu une circulation pas énorme, mais pas comme nous avec l'imprimerie, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas eu une alphabet. C'était plus difficile pour eux pour imprimer les grands travaux, mais ils ont réussi quand même avec les encyclopédies. Et c'était le moment que, ici en Europe, qu'est-ce que c'était notre encyclopédie à ce moment-là? C'était les œuvres des moines ou des gens comme Thomas Aquinas. Et c'est surtout c'était les œuvres pas du tout scientifiques, c'était les œuvres. Et au point de vue mentalité, je crois que la société chinoise à ce moment-là était beaucoup plus ouvert, beaucoup moins limité que la nôtre au point de vue des observations laïques, des sciences. Et ça, à mon avis, c'était comme ça jusqu'à la Renaissance en Europe, quand elle a changé. Et ce n'est pas une question de la détermination, la surdétermination technologique, Mais il faut éviter la détermination des mentalités aussi. Parce qu'à ce moment-là, les mentalités chinoises étaient beaucoup plus ouvertes, à mon avis, que les mentalités en Europe qui étaient, quand vous des observations sur le monde, tout ça, ils étaient beaucoup plus restreints, beaucoup plus prises par la religion et par le... Mais en Chine, il n'y avait pas de grands livres de religion comme ça, il y avait des livres bouddhistes, mais le bouddhisme a été toujours une religion entre les autres. Et les paroles de Confucius étaient souvent contre la religion et contre les dieux, contre les esprits, contre les croyances comme ça. Alors, au point de vue de la modernité, à mon avis, à ce moment-là, la Chine était même plus moderne au point de vue de la mentalité, des mentalités que l'Europe, dont parle Duby ou les autres, où la force de la religion, d'une seule religion, était beaucoup plus dominante à ce moment-là. Bon, ça, c'était avant l'ouverture de la Renaissance. Et l'ouverture avec du livre, des livres de Renaissance aussi, de l'imprimerie en Europe. Alors, je suis pas très content avec les histoires qui voulaient faire les histoires de mentalité, les mentalités qui durent pour les siècles, pour les millénaires comme ça, parce que ça a changé avec la Chine et nous, et c'est vrai qu'il y a un problème maintenant, que les Chinois n'ont pas fait ce que nous avons fait avec le livre depuis le 17e siècle, c'est vrai. Ils n'ont pas fait le même, ils n'ont pas fait pareil avec les inventions du spinning wheel, de tout ça, pour produire le coton au fin de la 18e siècle. Mais je crois que l'avance que nous avons fait, nous, c'est pas une question de la culture très, très enracinée. Et ça peut toujours changer, ça peut être en voie de changement à ce moment, ça peut être avec le Japon. C'est tout à fait possible que ça va, avec le Hong Kong, avec le Taïwan et les autres pays sinophones. Ça va changer peut-être encore une fois. Il ne faut pas regarder les jeunes. Les jeunes ne sont pas tout faits.
Oui, je voudrais revenir sur une question. Effectivement, bon, je crois que vous parvenez à une conclusion qui est semblable à celle d'autres auteurs, notamment Frank, en ce sens qu'il dit au fond. Le progrès de l'Europe, enfin ce progrès fantastique de l'Europe ou cette situation exceptionnelle de l'Europe, ce sont les 200 dernières années. Avant, ce n'était pas le cas et rien n'est dit.
Pas plus que ça, oui.
On peut étendre un tout petit peu, mais rien n'est dit qu'effectivement, à l'avenir, ce sera le cas. Dans le cas de Frank, l'explication est avant tout économique. Hein, bon, en gros, ce veut nous dire on a eu beaucoup d'argent grâce au commerce de l'argent, etc. Une explication économique. Il n'y a pas chez vous cet argument économique. Et moi, ce qui me frappe dans les analyses jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'analyse du politique, il n'y a pas d'analyse de la construction de l'État. Oui. Et je suis frappé qu'on ne prenne pas ça en compte, parce qu'après tout, lorsque l'on raisonne en termes de modernisation, On pourrait se dire qu'après tout, un pays comme la Chine, si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, un pays comme la Chine a construit une machine bureaucratique, un État, quelque chose d'extrêmement complexe, sophistiqué, et je dirais dissocié du religieux, enfin quelque chose qui n'a pas beaucoup d'équivalent ailleurs, et qu'on pourrait considérer que c'est effectivement une énorme avance par rapport à d'autres sociétés. En revanche, cet appareil, et peut-être dans d'autres sociétés, s'est sclérosé. Et cette analyse du politique n'apparaît pas dans la plupart des analyses. Et dans l'ouvrage, que vous avez un certain nombre d'aspects, mais cet aspect-là n'est pas abordé. Est-ce que vous le concevez comme important, comme essentiel? Est-ce que c'est quelque chose...
Oui. J'avais pensé, et ça m'intéresse beaucoup, le problème de l'État. J'avais travaillé un peu là-dessus en Afrique, mais pas... Mais... Oui, j'avais travaillé un peu sur la féodalité. Il y a des gens, comme David Landis, qui pensent que la féodalité en Europe, et les autres, comme mon ami Perry Anderson, qui pensent que la féodalité était critique pour l'Europe. Et que c'était la décentralisation, la non-centralisation, qui était très importante en Europe. Oui, je ne vais pas parler dans ce livre, parce que ça me paraît un autre argument. À mon avis, les gens qui voulaient attribuer les avances de en Europe à des difficultés en l'Orient, de l'Orient, peuvent toujours trouver un autre bout, un autre tâche, n'est-ce pas? Mais je crois pas que... Mais il y a un problème avec les arguments sur l'État ici en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a eu une espèce de compétition en Europe à cause des plusieurs États, des États. Mais ce n'était pas comme ça du tout aux États-Unis. Et maintenant, nous pensons que les États-Unis, il faut que nous suivons l'exemple des États-Unis pour unifier l'Europe, avoir un plus grand marché, comme la Chine a toujours eu. L'Empire chinois a toujours eu un grand marché, comme les États-Unis et comme nous sommes en train de construire ici en Europe maintenant. C'était, on dit goodbye aux petits États. Maintenant, c'est tous nos efforts, c'est pour construire un grand marché, un plus grand marché avec un seul monnaie. Tout ça, comme ils ont tout en Chine depuis longtemps. Et alors, je trouve les arguments assez contradictoires, et surtout au point de vue. Dans le temps, on a parlé, comme Marx et Weber, du oriental despotism, et tout en Chine, tout ça a été despotique. Je ne crois pas. C'était comme ça. Et dans les villes urbaines comme Hangzhou ou Guangzhou, il y avait beaucoup de civil society dans ces villes. Il y avait beaucoup de vie bourgeoise, n'est-ce pas? De vie bourgeoise qui produit la peinture et, et les beaux jardins de fleurs et tout ça. C'est pas seulement le despotisme du cours à l'Orient où on fait pousser les péonies. Est-ce qu'on dit péonies en France?
Les pivoines.
Les quoi? Les pivoines. Les pivoines. Les pivoines. C'était partout, c'était dans les jardins des bourgeois, au sud de la Chine aussi. Et il y avait eu, je crois, c'était Max Weber, c'était Pierre Ren qui a parlé de la commune, de l'individualité, enfin la spécificité de la commune en Europe. Mais ils ont toujours fait des voyages à Malacca et des étroits de Malacque, là, entre la Sumatra et la Malaisie. Et ils ont toujours eu des relations, des rapports avec le sud de l'Inde, avec Trivancore et là, au sud de l'Inde. Ils ont toujours eu des rapports assez proches avec Sri Lanka, avec le sud de l'Inde. Alors, ils avaient eu une marine marchande assez active. Et c'était pas tout à fait. Toute la vie n'était pas réglée par la décision de la cour à Beijing. Mais je crois maintenant, il y avait cette vue de la politique en Chine et aussi en Inde, qui à mon avis est tout à fait inacceptable. Il y avait peut-être pas les formes de la féodalité qu'on trouve en Europe, mais il y avait non plus les formes excessives de la centralisation. Il y avait la vie marchande dans les villes, la vie des intellectuels, la vie des littératifs, qui n'était pas du tout à fait réglée dans une façon très étroite par le coup. Ils ont eu leur propre individualité. Mais c'est vrai que je n'avais pas abordé la question de la politique, partiellement parce que je trouve ce que Eric Wolff a dit dans son livre sur le qu'est-ce que c'est Europe European de j'ai oublié le nom de son livre. Eric Wolff, un anthropologue, historien. Europe et les people without history. Europe et les peuples sans histoire. Je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais non. Mais c'est lui qui examine la politique en Orient et qui le trouve beaucoup plus proche que la politique en Europe qu'on n'a jamais pensé. Et lui était marxiste et il a vraiment changé ses idées au sujet de l'Oriental despotism maintenant. Et c'est vrai qu'il faut faire peut-être quelque chose sur la politique. Mais moi, je suis convaincu que la royauté en Europe n'était pas très différent de la royauté au point de vue de la décision qu'ils ont fait des ingérences dans les affaires marchandes, souvent comme, comme Louis XIV, ou comme chez nous aussi. Ce n'était pas du tout une liberté absolue de faire ce qu'on veut à la mode de Margaret Thatcher. Et ça n'a jamais été. Ni en Allemagne, ni en France, ni en Angleterre.
Vous parleriez d'un mercantilisme oriental, oui, oui. À l'inverse.
Oui, il y avait un peu ça. Il y avait des... Quand on se rappelait qu'il y avait beaucoup de marchands, beaucoup de marchands arabes, par exemple, à Guangzhou, je me rappelle d'un... Quand j'y suis allé il y a quelques années maintenant, il y avait dans un temple à Canton, à Guangzhou, il y avait un monument, une statue d'un arabe avec son main sur son temple comme ça, qui regarde l'océan. Il a passé, je crois, il a passé une quarantaine d'années en Chine. Il est devenu, il a travaillé pour l'empereur. Et il y avait toute une colonie à ce moment-là, dans le 9e siècle, je crois. Toute une colonie des Arabes qui font le commerce en Chine et qui ont une vie assez indépendante. Après tout, il y avait des mosquées à ce moment-là. Il n'était pas contraint à suivre une façon les façons chinoises. Ils ont les mosquées, comme les Juifs ont établi les synagogues là. Et c'était pas tout à fait un despotisme au point de vue de la religion, du tout.
Dans votre le dernier chapitre, je crois, vous avez accordé une très grande importance à tous ces échanges réels. Vous vous rassemblez dans une synthèse tout à fait brillante et très informative. Tout un ensemble de faits, très souvent ignorés ou minorés en tout cas, qui nous rappellent à quel point l'échange a été de règle pendant toute une bonne partie de notre passé, et que les échanges entre Orient et Occident sont loin d'être un fait récent. Alors, tout ce que vous nous dites, au fond, nous le recevons bien, c'est cet appel à un relativisme historique. Mais est-ce que cela vous conduit à une sorte de, finalement, de vue invariante, globalement, de nos sociétés ?
Non, je ne crois pas, je ne suis pas relativiste du tout. Je pense que... Je pense que l'écriture fait une différence entre nous et l'Afrique et l'océan et Australie. Et je pense que dans des façons différentes, on a profité de cette grande invention. Et je ne suis pas relativiste, c'est ce que... Pas du tout. Je pense pas comme Derrida que toutes les traces sont les mêmes, s'ils sont les traces dans la mémoire ou les traces dans les livres. Je vois une différence entre les traces dans les mémoires et les archives. Les différences très, très pratiques, très pragmatiques. Et je ne suis pas du tout un relativiste dans ce sens-là. Mais je trouve que Il y a des spécificités, européennes, il y a des spécificités françaises, il y a des spécificités lyonnaises. Mais je crois qu'on a, il faut prendre les mesures contre toujours il faut prendre les mesures contre les idées que nous, les Lyonnais, les Français, les Anglais, les Européens, ont trouvé la solution des problèmes de la vie. C'est nous qui avons trouvé la clé de la modernité. Et ça, c'est toujours un grand danger. Il y a maintenant une série sur la télé en Angleterre. Et j'avais apporté le livre. Et il faut dire que le chairman de ces... Il y avait des historiens, même un sinologue. Il y avait... La chairperson, c'est un anglais, un anthropologue, un ami qui s'appelle McFarlane, mais qui pense que c'était les Anglais qui ont tout inventé. Il y a un problème pour les Anglais parce qu'ils ont inventé quelque chose au fin du 18e siècle. Et il faut trouver une explication. Mais l'explication à McFarlane et des autres, et des historiens de la famille, c'est que les Anglais ont trouvé l'amour familial, le conjugal. Ils ont inventé une nouvelle espèce de famille. Ils ont inventé l'individualité. Où ils ont trouvé dans les bois de l'Allemagne. Et maintenant, il s'appelle The Day the World Took Off, le jour que le monde
a décollé.
Les racines de la révolution industrielle. Depuis que je suis ici à Lyon, j'avais appris qu'il y avait beaucoup de racines de la révolution industrielle. Et il faut regarder pas seulement le coton et la machine qui fabrique le coton, il faut regarder aussi la machine qui fabrique le soie, qui ont inventé les Italiens, qui ne sont pas même des protestants. Il faut toujours, je crois, se mettre en... Nous avons un problème en Europe parce que nous avons fait des avances matérielles et peut-être aussi cognitives, tout ça, avec nos sciences. Mais il faut mettre être très, très careful, il faut prendre les mesures. De ne pas penser que c'était à cause de notre culture et de notre mentalité que les autres ne peuvent pas faire les choses pareilles. Parce qu'il y a toujours des machines dont Mark Elvin a parlé en Chine qui a réussi. Je m'appelle plus le.
C'est pour le lin.
C'était quoi?
Pour le lin.
Pour le lin. C'était pour le lin?
Oui.
Ah, c'était pas pour le soie?
Non, rien. Mais ça aurait pu être adapté, c'est une
question. Oui. Des machines beaucoup plus tôt que même les Italiens. Et il y avait tout ce va-et-vient avec le gunpowder, les poudres des canons et tout ça. Et c'est vrai qu'on a fait des avances ici, on a développé des canons, des mousquets, des mosquettes qui ont terrorisé le monde, mais il y a une partie du monde, c'est pas une question de relativisme à mon avis, c'est une question d'apprécier ce qu'ils en font avec la machine pour mécaniser le lin, les Italiens pour mécaniser la filature de la soie. Et il ne faut pas regarder seulement l'histoire britannique ou américaine pour au sujet du coton. Ça va. Le monde a décollé plusieurs fois dans plusieurs pays et pas seulement dans le mien, dans le 18e, 19e siècle.
Je ne sais pas si on veut ouvrir le
débat. Oui, peut-être. D'accord. Bien, profitons de ce que vous avez déjà dit devant vous, sinon sous la main. Donc je vous en prie, puisque on s'entend assez bien ici et qu'on a même un micro, alors ça c'est encore mieux. Donc qui veut intervenir, intervienne.
Bonsoir, je voulais demander à M. Goudy s'il voyait une différence entre l'évolution de la pensée dans les sociétés européennes à écriture linéaire très structurée, c'est-à-dire verbe, sujet, complément, et dans une langue comme le grec, je ne connais aucune langue slave, donc je ne m'hasarde pas là-dessus, où par le système des déclinaisons, on peut faire varier la place des mots dans les phrases. Est-ce que ceci induit dans la pensée une autre structure, une autre structuration, comme vous l'avez déterminé par les langues à écriture idéogramme
des mots.
Vous pouvez répéter ça, moi je peux traduire, il n'y a pas de problème.
Comme vous voulez, si c'était clair en français.
Je m'excuse parce que je n'entends pas très bien dans les grandes salles.
But is there any difference in the languages where you have some kind of linear construction, subject, verb, object, etc. And languages within which you have declinations? Well, which means that within a sentence you can move the place of the different words. Does it make a difference in terms of thinking?
Il y a sans doute des différences comme ça, mais ils étaient beaucoup exagérés, par exemple, comme dans les beaux papiers de Benjamin Lee Whorf sur ce qu'il appelait le Standard Average European, SAE. Je pense que l'Europe était, les langues de l'Europe étaient beaucoup plus. Étaient beaucoup plus adaptées à l'écriture que les autres. Je sais bien qu'il y a des différences comme ça. On a beaucoup parlé des différences avec. Alors, mais les différences ont été beaucoup exagérées, je crois. Et il y a peu de choses. Il y a peu de barrières. Il y a moins de barrières à la pensée qu'on ne pense pas. Ils ne sont pas tellement grand. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire dans des langues polysyllabiques qu'on ne peut pas faire dans les langues monosyllabiques, je ne sais pas. Mais je ne crois pas qu'ils sont tellement importants que les linguistes ont à penser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord,
Oui, enfin, je ne suis pas d'avis de linguiste, mais
oui,
j'ai plutôt tendance à penser comme vous, oui.
Et puis, il y a nous font partie des langues presque orientales, enfin, c'est-à-dire les Indes indiennes, nos racines sont dans les langues indiennes, n'est-ce pas? Et nous rapprochons au point de vue des structures de la langue, nous rapprochons comme bénévistes et les autres ont monté. Nous rapprochons aux langues hindi et gujarat et les autres langues de l'Inde du Nord. On n'est pas très... on n'est pas le seul d'avoir les constructions de ce que Worf a appelé le standard average European. Il y avait des non-Europeans, des Indiens, qui ont eu les mêmes constructions avec les langues. Mais je crois qu'il y a, au point de vue de l'écriture, je suis convaincu que les formes de lecture font beaucoup de différence. En Chine, il y a cette grande masse qui peut communiquer par écrit. Dans toutes ces populations qui parlent des langues tellement différentes, et c'est... Il y a quelques années passées que je suis allé au Japon parler de l'alphabet et des formes de l'écriture. Et les Japonais ont insisté que c'est la forme logographique de la langue chinoise. Qui est la forme qu'il faut adopter pour le monde. Comme j'avais dit ce matin, nous avons adapté pour la mathématique les formes logographiques, n'est-ce pas? Parce que tout le monde comprend que quelque chose comme ça, c'est le 1 ou le boyen ou le dagari ou quelque chose n'importe où. Nous peut regarder les symboles et nous pouvons interpréter, faire une interprétation des symboles dans notre propre langue. C'est ce que les Chinois essayent de faire, pas toujours avec de la réussite, mais c'est peut-être possible de le faire au point de vue de la livre aussi. Dans notre monde global, le monde de la globalisation, il faut peut-être penser à suivre les Chinois plutôt qu'à suivre les Grecs.
Monsieur.
Oui, c'est peut-être plutôt une réaction qu'une question. Je suis également historien de la Chine et comme Christian Henriot a parlé de militantisme historique ou d'histoire militante. Personnellement, je me définirais plutôt comme un sympathisant en ce qui concerne ce mouvement de rééquilibrage entre l'Orient et l'Occident. Ceci dit, alors, donc, en tant qu'historien de la Chine, je ne peux que, d'une certaine manière, y adhérer, en tout cas l'appuyer. Mais je suis obligé de constater également qu'il pose de gros problèmes, parce que le professeur Boudy s'est arrêté au XVIe siècle, tout à l'heure, à propos de la Chine, en disant jusqu'au XVIe siècle, la Chine... était à peu près égalité ou était aussi avancée. Or, le problème, c'est plutôt après, finalement. Parce que si on cherche à définir la modernité et des critères de modernité, on constate, par exemple, que les sciences modernes s'écrivent en langage mathématique et que ce langage mathématique est le langage mathématique, disons, grec. Enfin, c'est le nôtre. Or, il ne peut pas s'écrire en langage mathématique chinois ou mésopotamien. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut essayer de faire, en fait, c'est essayer de montrer que des Mésopotamiens ou des Chinois sont arrivés au même résultat que des mathématiciens pratiquant les mathématiques européennes ou grecques. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'arrive pas au même résultat? Je veux dire par là, quand il y a vraiment des disciplines qui ne correspondent pas et qui n'ont pas non plus de débouchés sur la modernité, c'est comme si elles n'existaient pas. Et je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours traduisibles, comme vous venez de le dire. Je prends un exemple plus précis auquel j'étais confronté en lisant des textes d'administration et plus généralement enfin, de droit, etc., en Chine. Alors d'abord, une petite aparté sur le problème de la comptabilité à partie double. J'ai toujours trouvé ça amusant que Weber en ait fait l'exemple même de la rationalité, parce qu'en Chine, par exemple, l'administration, depuis en gros le XIVe siècle, utilise couramment une comptabilité à partie quadruple. Il y a quatre colonnes. Alors faudrait-il en conclure que l'administration chinoise était deux fois plus rationnelle que les marchands italiens du XIVe siècle? C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, enfin qui n'a pas de sens. C'était simplement une pratique très courante que de faire des colonnes avec, en effet, les recettes, les entrées, et puis aussi l'exercice de l'année précédente, et puis aussi ce qu'on gardait en magasin. Enfin bref, c'était, de ce point de vue-là, il y a une rationalité très pragmatique qui ne prête pas tellement à conséquence. Par contre, ce qu'on rencontre très souvent avec les Chinois, parce qu'on dit souvent que les Chinois ne théorisent pas, ce seraient des grands pragmatiques qui auraient un peu tout découvert par hasard, mais qui n'auraient jamais fait de système. Dès qu'on commence à raisonner en Chine sur un certain nombre de principes de gouvernement en particulier, de principes de droit, on va utiliser très souvent un livre qui est complètement déroutant, qui est le Yiding, c'est-à-dire le livre des mutations, qu'on peut trouver dans toutes sortes de traductions, le Yiding, le livre des mutations, the book of change, qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie ésotérique, dans des traductions très mauvaises, et qui vous permettront de... Enfin, c'est un petit peu comme se tirer les tarots, quoi, de faire des commentaires, c'est un peu l'horoscope, voilà. Or, il se trouve qu'en Chine, vous avez une élaboration théorique extraordinaire à propos de ce Yiding. Aussi bien pour ce qui est des principes de gouvernement, je l'ai dit, mais par exemple pour le droit, on trouve des... Donc ça marche par hexagramme, par figure, justement, on se retrouve avec des symboles, des figures, et vous avez une figure faite de séries de traits, avec un vide au milieu qui vous dit absolument rien, et vous trouvez que cet hexagramme, par exemple, veut dire le vide intérieur, ce qui veut dire que... ce vide intérieur doit être comblé par la véracité et la sincérité, et que le juge, en fonction de ce vide intérieur et de cette véracité, doit donc être équitable, et à partir de là, on définit l'équité, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un terrain assez proche de ce qui était défini par Aristote, par exemple. Le juge est celui qui ne profite pas de la situation, qui ne cherche pas à piéger le justiciable, etc. Et les Chinois arrivent à un raisonnement à peu près semblable. Alors ça va pour cet hexagramme-là, parce que j'étais très content de trouver, mais sur les quelques 60 et quelques restants, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traduction possible. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la raison graphique ne communique pas toujours. C'est-à-dire que nous avons notre raison graphique et nous sommes un petit peu enfermés dans une certaine conception de la modernité, parce que quand même, tout ça s'enchaîne de manière logique, mais que lorsque on est encore confronté dans certaines civilisations, comme la Chine par exemple, à tout un pan de la tradition dont on ne peut pas vraiment donner un équivalent et auquel on a beaucoup de mal à avoir accès. Voilà. C'est...
Alors.
C'est à vous à répondre.
Non, pas du tout. Non, c'était pas non plus une question, c'est une réaction, je crois, par rapport.
Il faut réagir.
Nous sommes dans le même laboratoire.
Ah, vous êtes. Vous ne pensez pas forcément les mêmes choses.
Mais ça n'empêche pas. Parce que moi, j'avais rien entendu. Presque rien. Je m'excuse, oui. Mais c'est difficile pour moi. Ah, ça,
oui, bah, je vous en prie.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait souhaitable. Il est souhaitable de rééquilibrer l'histoire entre l'Orient et l'Occident, mais que la modernité, aujourd'hui, elle se définit malgré tout en termes occidentaux.
Oui, c'est vrai.
Nous n'avons pas de termes de la tradition chinoise. Tout ce que nous pouvons faire, c'est réapprécier certains éléments de la tradition chinoise en disant ils avaient déjà inventé ci, ils avaient déjà compris ça. Mais il y a des choses qu'ils avaient comprises qui n'ont pas trouvé place dans la modernité, et ça n'existe pas pour nous.
Tout ce que je veux dire. C'est vrai que la modernité, maintenant, c'est à nous, les Occidentaux. Mais, si vous... Il y a dans le livre de Needham sur la botanique, Il y a une espèce de graphe voilà, qui commence pense ici à 400 avant Jésus-Christ. Il dit que le savoir botanique en Chine et en Grèce, tout à fait après Aristote, était à peu près du même niveau. Mais au point de vue des variétés des plantes qu'on trouve dans les encyclopédies et dans les documents. Mais en Orient, après 400, la chrétienté, il y avait une perte de connaissance, vraiment une perte de connaissance, dans ce que nous appelons les Dark Ages, les bas Moyen-Âge.
Okay.
Les bas Moyen-Âge. Il y avait une perte de connaissance botanique à ce moment-là. Ça a repris au 15e siècle avec les travaux des botanistes allemands à ce moment-là. Mais en Chine, il n'y avait jamais cette perte de connaissances. Il y avait un lent accroissement, augmentation du savoir qui a été passé par l'Europe au fin du 15e siècle. Alors, qui était moderne à ce moment-là, au 15e ou 4e siècle? C'était la Chine. Si on la modernité change, a beaucoup changé. Si on a posé les mêmes questions à ce moment-là, on aurait eu des différentes réponses à ce moment-là. Et ça n'a pas toujours changé maintenant dans l'autre sens. Et c'est bien que nous avons fait des avances dans la Scientific Revolution et tout ça, dans les modes de production. Mais avant ça, c'était les Chinois qui étaient plus avancés que nous, d'une façon. C'est nous qui ont pris la faïence de l'Orient. C'est nous qui avons importé les soies de l'Orient avant d'établir des usines ici ou des usines à Delft. Et nous n'avons rien à échanger, c'est ce que André Gonefranc a parlé. Nous n'avons rien changé avec eux, sauf l'or et l'or et l'argent. Il n'y avait rien qu'ils ont voulu. Ils ont voulu des mosquées, des armements, mais à ce moment-là, pas du tout. Il n'y avait rien. Alors, c'est eux qui étaient modernes à ce moment-là. Ce n'est pas nous qui avons une monopolie de la modernité. Et alors, ça peut changer, ça a changé dans le passé, ça peut changer dans le futur. Et c'est vrai qu'il faut, expliquer ce qu'il a passé ici, c'est les avances que nous avons faites. Mais il faut aussi expliquer ce que les autres civilisations ont fait avant, ce que les Chinois ont fait avec ses machines à pour le lin et tout ça. Il faut expliquer tout ça. Et c'est pas. Je crois que c'est pas une vraie question de dire que. Ils ont lancé un take-off, ils ont lancé
un décollage.
Un décollage, mais ils n'ont pas réussi. Parce que ici, peut-être, nous avons essayé un décollage et nous n'avons pas réussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi avec le décollage. Et peut-être dans le futur. C'est une question pour nous autres. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup d'économistes et de sociologues qui parlent du déclin de la Grande-Bretagne, le déclin de la France, tout ça. C'est nous qui souffrent maintenant de ce genre de non-explication parce que nous n'avons pas adapté notre machine pour la filature de la soie ici, pour la filature du coton à Manchester. Et nous avons décliné à un certain point de vue. Nous avons décliné en comparaison avec les Américains. Nous pouvons toujours dire que les Américains, c'est nous, nous aussi, nous Occidentaux. Mais ici, il y avait certainement un déclin depuis le milieu, enfin la fin du 19e siècle, au point de vue de l'économie, et au point de vue même des savoirs. Ce n'est pas nous qui domine au point de vue des prix Nobel en science maintenant. C'est les Américains. Il faut expliquer les déclins aussi que le take-off. Quoi? C'est un problème compliqué, il faut dire. Mais je reproche les historiens et les anthropologues et les sociologues anglophones surtout, mais anglo francophones aussi, qu'ils pensent d'une façon beaucoup trop ethnocentrique, eurocentrique, à mon avis. Et c'est un danger. C'est un grand danger pour l'histoire culturelle, même de l'Europe, de penser que les autres n'ont pas trouvé les racines de la révolution industrielle là. C'est de mal comprendre notre situation historique. De négliger l'imprimerie en Chine en pensant du livre ici, il faut rendre compte de tout ça. Je ne veux pas dire que tout le monde doit être comparatiste, certainement pas relativiste, mais il faudrait avoir un peu de compréhension des autres civilisations si on voulait louer les avances qu'on a fait ici.
Monsieur, je vous en prie.
Oui, je voudrais vous poser une question qui est plus liée aux sciences sociales. Ce matin, et vous avez repris ça tout à l'heure, vous avez évoqué le projet de mettre en œuvre une écriture logographique véhiculaire, c'est-à-dire à l'image de l'écriture chinoise, une écriture qui permettrait des échanges en conservant les langues parlées dans les différents pays, dans les différentes cultures. Moi, je voulais rattacher cette question-là aux limites de la production scientifique en sciences sociales, que ce soit en histoire, en anthropologie ou en sociologie. Et les limites, je les relierai avec justement le fait qu'on écrive, et que ce soit ça notre production intellectuelle. Et qu'on écrive des discours, enfin, qu'on ait une écriture discursive, ce qui fait qu'on retrouve des auteurs, par exemple, français comme Jean-Claude Passeron, qui ont une vision comme ça, discursive.
Jean-Claude Passeron.
Passeron.
Ah oui, Passeron. Oui.
Hein, avec la vision discursive des sciences dites sociales. Et avec cette vaine tentative que serait la mathématisation des sciences sociales. Alors, juste revenir un petit peu sur ce qu'est la mathématique par rapport à l'écriture. Si je regarde bien l'histoire de la mathématique, ça a été un processus de condensation de l'écriture. Hein. Un paragraphe a été remplacé par un mot, le mot par une lettre. Et surtout, un des grands acquis des mathématiques, c'est qu'au bout du compte, on peut résumer 2000 pages en une page. Et c'est la propriété d'avoir tout sous les yeux d'un seul coup qui donne la puissance de la technique intellectuelle mathématique. Le problème, c'est qu'au passage, elle s'associe avec une réflexion logique uniquement syllogistique.
Uniquement quoi ?
Syllogistique. Uniquement basée sur le syllogisme aristotélicien, au fond. Et qu'au bout du compte, c'est sa volonté de démonstration, c'est une des volontés de démonstration totalitaire. C'est-à-dire que quand on démontre, on impose. On impose une seule solution possible au problème. Et deuxième problème des mathématiques, c'est que chaque condensation d'un paragraphe en un mot en une lettre, nécessite ensuite un apprentissage des codes d'accès qui est de plus en plus long et qui commence à poser des problèmes, d'ailleurs, aux enseignants du bâtiment d'à côté. Hein, parce que actuellement, on arrive au niveau maîtrise à apprendre des mathématiques d'avant-guerre. Pour commencer à toucher les mathématiques actuelles, il faut attendre la thèse, à peu près. Quoi, hein. Donc on commence à avoir des difficultés, c'est-à-dire que le système de notation commence à poser des difficultés. Donc pour faire le lien entre ce problème des mathématiques qui peuvent évidemment pas convenir aux sciences sociales, qui ont essayé de s'entendre depuis 150 ans sur une formalisation qui n'y sont jamais arrivées, parce qu'on ne peut pas donner qu'un seul sens aux choses. Et peut-être que dans la bifurcation qu'on a prise en créant l'écriture alphabétique, avec la conséquence mathématique qu'elle a eue en particulier, on a oublié des potentialités d'avoir des représentations graphiques partagées donc par plusieurs observateurs, synoptiques, c'est-à-dire permettant une vision synthétique du monde en un seul regard, donc en une seule conscience, en un seul temps, avec des objets qui seraient plus propres aux sciences sociales. Et est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait qu'on essaye de créer comme outil, c'est-à-dire soit des pictogrammes qui seraient les éléments de base de schématisation en sciences sociales, en anthropologie, en sociologie? Est-ce que ce n'est pas les outils intellectuels qui nous manquent? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à la langue logographique véhiculaire internationale que vous proposiez?
Encore à moi?